Chapitre 48. Environ de San Juan Capistrano, samedi 25 avril 1981. Saul et Nathalie regagnèrent la planque en début d'après-midi. Si le soulagement de Nathalie était évident, les sentiments de Saul étaient plus ambigus. Le potentiel de recherche était fabuleux, dit-il. Si j'avais pu étudier à Rhodes pendant une semaine, j'aurais rassemblé une quantité incalculable de données.
Oui, mais il aurait sûrement fini par trouver un moyen de nous contrôler.
J'en doute. Les barbituriques suffisaient apparemment à inhiber sa capacité d'engendrer les rythmes nécessaires au contact et à la maîtrise d'un système nerveux autre que le sien. Mais si nous l'avions gardé ici une semaine, on aurait sûrement lancé des recherches pour le retrouver. Quels que soient les enseignements que tu aurais retirés de tes examens, tu n'aurais pas pu mettre en œuvre la phase suivante du plan.
Oui, en effet,
acquiesça Saul, d'une voix où perçait néanmoins une pointe de regret. Crois-tu vraiment que Harold tiendra parole et nous aidera à introduire quelqu'un sur l'île?
Il y a de grandes chances.
Pour l'instant, Mr. Harold semble avant tout soucieux de limiter les dégâts. Il a de bonnes raisons d'agir conformément à notre plan. Et s'il choisit de ne pas coopérer, notre situation n'en empirera pas pour autant.
Et s'il emmène l'un de nous sur l'île pour le livrer ensuite à Barent et à sa clique, en prétendant l'avoir capturé?
C'est ce que je ferai à sa place.
Saul frissonna.
Dans ce cas, notre situation aura empiré. Mais nous avons bien d'autres choses à faire avant d'envisager cette possibilité.
La ferme était dans l'état où il l'avait laissée.
Saul repassa quelques extraits des cassettes vidéo sous les yeux de Nathalie. La seule vue de Tony Harrod sur l'écran la rendait un peu malade.
« Et ensuite ?» demanda-t-elle.
Saul parcourut la pièce du regard.
« Eh bien, nous avons certaines tâches à accomplir.
Transcrire et évaluer les interrogatoires. Entamer l'analyse informatique et l'intégration de toutes les données. Ensuite, nous lancerons l'expérience sur le biofeedback à partir des informations que nous aurons recueillies. Tu dois t'entraîner aux techniques d'hypnotisme que je t'ai enseignées et étudier tes dossiers sur Nina Drayton et la période viennoise. Nous devons tous les deux réexaminer nos plans à la lueur des données relatives à Dolman Island, voire repenser le rôle que Jack Cohen est censé jouer dans notre entreprise.
Nathalie soupira.
Génial.
« Par quoi veux-tu que je commence ?»«
Par rien. »
Saul eut un large sourire.
« Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué lors de ton séjour en Israël, aujourd'hui est un jour de repos pour mon peuple. C'est le Shabbat. Va te reposer en haut pendant que je prépare un authentique déjeuner américain pour fêter notre retour au pays. Steak, patates cuites et tarte aux pommes. Le tout arrosé de Budweiser. »
Saul. Nous n'avons rien pour préparer un tel repas. Jack ne nous a laissé qu'un stock de conserves et de surgelés.
Je sais. C'est pour ça que pendant que tu feras la sieste, j'irai faire quelques achats à la supérette en bas du canyon.
Mais rien, ma chère.
Saul la força à faire demi-tour et lui donna une petite tape au creux des reins. Je t'appellerai quand les steaks seront en train de cuire. Nous pourrons arroser notre retour grâce à la bouteille de Jack Daniels que tu as planquée dans ta chambre.
« Je veux t'aider à préparer la tarte, »
dit Nathalie d'une voix déjà assoupie.
« Marché conclu.
Nous boirons du Jack Daniels en préparant la tarte aux pommes. »
Saul prit tout son temps pour faire ses achats.
Il poussait le caddie le long des allées brillamment éclairées, écoutant une musique sans charme et pensant aux ondes theta et à l'agressivité. Il savait depuis longtemps qu'un supermarché américain était un des lieux les plus propices à l'auto-hypnose. Et il avait depuis longtemps l'habitude de se plonger dans une légère transe hypnotique pour réfléchir aux problèmes complexes. Errant parmi les rayonnages, Saul se rendit compte qu'il avait passé les 25 dernières années à suivre de fausses pistes dans ses tentatives pour déterminer la nature des mécanismes de domination chez l'homme. Comme la plupart des chercheurs, il avait postulé l'existence d'une interaction compliquée de signaux sociaux, de subtilités psychologiques et de comportements d'ordre supérieur. tout en étant conscient du caractère primitif de la possession que l'Oberst avait exercée sur lui, Saul avait cherché son origine dans les circonvolutions encore inconnues du cortex cérébral, descendant de temps en temps dans le cervelet. Les données recueillies au moyen de l'électroencéphalogramme lui suggéraient à présent que ce talent avait son origine dans le bulbe rachidien, et qu'il se manifestait par l'intermédiaire de l'hippocampe, en conjonction avec l'hypothalamus. Il avait longtemps pensé que l'Oberst et ses semblables représentaient une forme de mutation, une expérience de l'évolution, ou une anomalie statistique illustrant les excès malsains de certaines capacités bien humaines. Les 40 heures qu'il avait passées avec Harrod avaient définitivement modifié son postulat de base. Si la source de cet inexplicable talent était bien le bulbe rachidien et le système limbique datant des premiers mammifères, alors le talent des vampires psychiques devait être antérieur à l'Homo sapiens. Harrod et ses semblables étaient des anomalies, des atavismes, des souvenirs d'une phase antérieure de l'évolution. Saul réfléchissait encore aux ondes θ et aux mouvements oculaires rapides lorsqu'il s'aperçut qu'il avait payé ses achats et qu'on lui tendait deux sacs pleins à craquer. Obéissant à une impulsion subite, il demanda à la caissière de lui changer $4 en pièces de 25 cents. Tout en transportant ses achats vers la fourgonnette, il se demanda s'il allait appeler Jack Cohen. La logique lui conseillait de n'en rien faire. Saul était toujours décidé à ne pas impliquer l'Israélien, sauf en cas de nécessité absolue. Aussi ne pouvait-il pas lui faire part des événements des derniers jours. Et il n'avait rien de précis à lui demander, pas encore. S'il appelait Jack, ce serait par pur caprice. Saul posa les sacs dans la fourgonnette et se dirigea vers une rangée de cabines téléphoniques placées près de l'entrée du supermarché. Peut-être le moment était-il venu de céder à ses caprices. Saul était d'humeur triomphante et voulait partager son optimisme avec quelqu'un. Il tâcherait d'être circonspect, mais Jack saurait qu'il n'avait pas dépensé en vain son temps et son argent. Saul composa le numéro du domicile de Jack qu'il avait pris soin de mémoriser. Personne. Il récupéra ses pièces et appela l'ambassade d'Israël, demandant à la standardiste de lui passer le poste de Jack. Lorsqu'une secrétaire le pria de s'identifier, il lui répondit qu'il s'appelait Sam Turner, un nom que Jack lui avait suggéré d'employer. Il était censé informer ses subalternes que tout appel émanant de Sam Turner devait être considéré comme prioritaire. Suivit une bonne minute d'attente. Saul tenta de refouler la sinistre impression de déjà-vu qu'il habitait. À l'autre bout du fil, un homme lui demanda « Allô, qui est à l'appareil ?»«
Sam Turner. »
Saul sentit la nausée monter en lui. Il savait qu'il devait raccrocher.
« Et qui demandez-vous, s'il vous plaît ?»«
Jack Cohen. »«
Pouvez-vous me dire pour quelle raison vous cherchez à joindre Mr. Cohen ?»«
C'est personnel. » »«
Êtes-vous un parent ou un ami de Mr. Cohen ?»
Saul raccrocha. Il savait qu'il était plus difficile de localiser l'origine d'un appel que ne le suggéraient les films et les séries télé, mais il était resté assez longtemps en ligne. Il appela les renseignements, demanda le numéro du Los Angeles Times et le composa, insérant ses dernières pièces dans la fente de l'appareil.
Los Angeles Times. Bonjour, je m'appelle Chaim Herzog, je suis responsable adjoint du bureau d'information du consulat d'Israël et je vous appelle pour rectifier une erreur dans un article que vous avez publié cette semaine.
Oui, Mr. Herzog, c'est du ressort des archives. Un instant, je vous les passe.
Saul contempla les ombres longilignes qui striaient le flanc de la colline et sursauta lorsqu'une voix féminine lui dit
« Ici la morgue ?»
Il répéta son baratin à sa correspondante.
« Quel jour est paru cet article, monsieur ?»«
Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas la coupure de presse sous la main et j'ai oublié.
Et comment s'appelle la personne dont vous m'avez parlé ?»«
Cohen. Jack Cohen. »
Saul s'adossa à la paroi de la cabine et observa les énormes merles qui se pressaient au bord de l'autoroute, autour d'une pâture dissimulée par les buissons. Un hélicoptère passa dans le ciel,
fonçant vers l'ouest à 500 pieds d'altitude.
Saul imagina la femme des archives en train de pianoter sur le clavier de son ordinateur.
« J'ai trouvé, »
dit-elle.
« C'est dans le numéro du mercredi 22 avril, en page 4. Un attaché d'ambassade israélien assassiné à l'aéroport de Washington. C'est bien l'article qui vous intéresse, monsieur. »
« Oui. »
C'était une dépêche d'Associated Press, Mr. Herzog. S'il y a une erreur, elle provient de leur bureau de Washington.
Pouvez-vous me lire cet article, s'il vous plaît, afin que je puisse confirmer la présence de l'erreur?
Bien sûr.
La femme lui lut les quatre paragraphes de l'article, qui débutaient ainsi.
Le corps de Jack Cohen, 58 ans, attaché à l'ambassade d'Israël et responsable des affaires agricoles, a été découvert cet après-midi dans le parking de l'aéroport international d'Hulls. Mr. Cohen semble avoir été victime d'un vol avec agression. Pour se conclure par la phrase suivante, « La police ne possède pour l'instant aucun indice, mais déclare que l'enquête suit son cours. »
« Merci, » dit Saul, et il raccrocha.
De l'autre côté de la chaussée, les mères l'abandonnèrent leurs repas invisibles et s'envolèrent vers le ciel, décrivant une spirale de plus en plus grande. Saul remonta le canyon à 110 km/h, poussant au maximum son véhicule relativement peu maniable. Il avait passé une bonne minute à essayer de construire un argument logique, rationnel, rassurant, capable de le convaincre que la mort de Jack Cohen était effectivement due à une agression qui avait mal tourné. De telles coïncidences se produisaient tous les jours. Et quand bien même, affirma une partie de son esprit, 4 jours s'étaient écoulés. Si les assassins de Cohen avaient fait le rapprochement avec la planque, ils seraient déjà arrivés sur les lieux. Impossible d'y croire. Il s'engagea dans l'allée, soulevant un nuage de poussière, et accéléra en remontant l'enfilade d'arbres et de barrières. Il n'avait pas l'automatique Colt sur lui. Il l'avait laissé dans sa chambre, à côté de celle de Nathalie. Aucune voiture devant la maison. La porte d'entrée était fermée à clé. Saul l'ouvrit et entra.
« Nathalie !»
Aucune réaction à l'étage. Saul regarda autour de lui, ne vit rien d'anormal, traversa d'un pas vif la salle à manger et la cuisine, entra dans la salle d'observation et trouva le pistolet à fléchette là où il l'avait laissé. Il s'assura qu'il y avait une flèche rouge dans le chargeur, prit la boîte de munitions et regagna en courant la salle à manger.
« Nathalie !»
Il avait monté 3 marches, le pistolet à moitié levé, lorsque Nathalie apparut sur le palier.
« Qu'y a-t-il ? »
Elle frotta ses yeux bouffis de sommeil.
« Fais tes bagages, et sans perdre de temps. Nous devons partir tout de suite. »
Sans poser de questions, elle fit demi-tour et se dirigea vers sa chambre. Saul entra dans la sienne, attrapa le pistolet posé sur sa valise, vérifia que le magasin était plein, actionna le percuteur pour introduire une balle dans la chambre. Il s'assura que le cran de sûreté était en place et glissa le pistolet dans la poche de son blouson de sport. Nathalie avait déjà rangé sa valise dans la fourgonnette lorsque Saul y apporta sa propre valise et son sac à dos.
« Que dois-je faire ? »
demanda-t-elle. La silhouette de son colt était visible sous le tissu de sa jupe paysanne. « Tu te rappelles ces 2 bidons d'essence que Jack et moi avons trouvés dans la grange ? Amène-les sur le perron, puis reste ici et guette l'arrivée d'une voiture dans l'allée ou d'un hélicoptère dans le ciel.
Attends !
Voilà la clé de la fourgonnette. Mets le contact et tiens-toi prête à démarrer, d'accord ?
D'accord. »
Saul rentra dans la maison au petit trot et commença à débrancher ses appareils, les rangeant dans les cartons au petit bonheur la chance. Il pouvait abandonner la caméra et le magnétoscope, mais il avait besoin de l'électroencéphalographe, des boîtiers de télémétrie, des bandes, de l'ordinateur, de l'imprimante, des rames de papier et des transmetteurs radio. Il commença à transporter les cartons jusqu'à la fourgonnette. Saul et Nathalie avaient mis 2 jours à installer et à régler leur équipement, puis à préparer la salle des interrogatoires. Il lui fallut moins de 10 minutes pour tout démanteler et charger le matériel indispensable.
« Tu as vu quelque chose ?»«
Rien pour le moment, »
répondit Nathalie. Saul hésita une seconde, puis emporta les bidons au fond de la maison.
arrosant d'essence la salle des interrogatoires, la salle d'observation, la cuisine et le séjour. Sa conduite lui paraissait barbare et un peu ingrate, mais il ignorait ce que les hommes de Haines ou de Barent pourraient déduire de leurs éventuelles découvertes. Il jeta les bidons vides au dehors, vérifia que les pièces du premier étage étaient débarrassées, et acheva de charger les objets provenant de la cuisine. Il attrapa son briquet, se dirigea vers le porche, hésita.
« Nathalie, est-ce que j'ai oublié quelque chose ?»«
Le plastique et les détonateurs à la cave !»«
Bon Dieu !»
Saul se précipita vers l'escalier. Nathalie avait préparé un nid de couverture dans la fourgonnette. Elle y posa la caisse doublée contenant les détonateurs lorsque Saul la lui donna. Il fit une dernière fois le tour de la maison, attrapa la bouteille de Jack Daniels dans un placard et mit le feu aux traînées d'essence. Le résultat fut aussi immédiat que spectaculaire. Saul protégea son visage de la chaleur et pensa « Je suis navré, Jack ». Nathalie était au volant lorsqu'il sortit de la maison, et elle n'attendit pas qu'il ait fermé sa portière pour démarrer et foncer vers l'allée, projetant des gravillons sur l'herbe.
« Quelle direction ? »
demanda-t-elle lorsqu'ils atteignirent la route.
« Vers l'est. »
Nathalie fonça vers l'est.